Matthieu chapitre 8 et on va lire ensemble à partir du verset 23. Il s'agit de Jésus, monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dire « Seigneur, sauve, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est donc celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Amen. Béni soit Dieu. On prie quelques instants. Merci Seigneur pour ta parole que l'on va partager ce matin ensemble. Seigneur, elle est le pain aussi, Seigneur, qui nourrit nos âmes. On a partagé ce matin le repas du Seigneur, la Sainte Cène, et nous partageons aussi maintenant, Seigneur, eh bien, le pain des Écritures, Seigneur, la nourriture dont tu as dit, eh bien, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nourris nos âmes, nous t'en prions au travers de celle-ci. Parle à nos cœurs, Père éternel. Visite, Seigneur, chacun et chacune. Ouvre notre entendement et nos yeux, Père, pour que la gloire de ton nom, nous t'en prions dans le beau nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Un passage bien-aimé que vous connaissez bien. Donc, en réfléchissant sur ce que je devais apporter, eh bien, ce dimanche, pendant ce culte, ce texte s'est simplement imposé à mon cœur. Et pour tout vous dire, j'ai eu l'occasion de m'arrêter aussi à l'église sur certains sujets par rapport à ce passage. Et c'est un texte là qui est ces derniers temps dans mon cœur et sur lequel je médite aussi beaucoup et dans lequel le Seigneur, bien sûr, m'a parlé et qui, je crois, au travers de ce passage fort connu, je pense que la plupart d'entre vous, vous le connaissez, ce passage, eh bien, l'Esprit de Dieu va aussi vouloir laisser une parole, parler aussi à nous croyants et aussi à l'Assemblée de Dieu, je crois, de Martigues. La parole de Dieu nous montre dans ce passage eh bien, que les disciples vont connaître une traversée et une traversée qui va les emmener sur l'autre rive. C'est Jésus qui va ordonner aux disciples ainsi, après avoir manifesté sa gloire, après avoir béni ses contemporains. La parole de Dieu a été confirmée de plusieurs manières. Il y a eu des cas de guérison. L'Écriture nous dit dans le contexte, le soir, on lui amena plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole, et il guérit les malades et la parole de Dieu ainsi s'accomplit. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Alors qu'il se passe tout cela, l'Écriture nous dit, alors qu'ils ont vu la gloire de Dieu, à un moment donné, Jésus dit, voilà maintenant, passons sur l'autre bord. Et alors qu'ils vont se rendre sur l'autre bord, l'Écriture nous montre que la traversée ne va pas se passer exactement comme ils l'auraient imaginé. Et voyez-vous, la vie chrétienne, elle est aussi cette traversée dans laquelle les uns et les autres nous sommes embarqués. Par le moyen de la nouvelle naissance, nous entrons dans cette traversée. Et pendant toutes les années de notre pèlerinage ici-bas, on est là sur l'océan de ce monde en direction du céleste rivage où là, le Maître nous attend les uns les autres, où il a dit, je vous ai préparé une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais cette traversée, comme dans le passage biblique, eh bien, est tout sauf une traversée tranquille, une mer d'huile dans laquelle il n'y a jamais aucun problème, aucune difficulté. J'ai eu, dans le cadre de mon service militaire, le privilège d'être embarqué. Donc sur un vieux porte-avions, c'est l'époque du Clémenceau. Donc voilà, c'était une expérience que j'ai beaucoup appréciée. Et lorsque on était dans le bord, j'avais pour habitude de régulièrement d'aller sur des pontons lorsque le pont d'envol était libre, d'aller sur des accès pour pouvoir profiter des extérieurs, profiter de la mer et si possible bien sûr du pont d'envol. Et pendant cette expérience où j'ai été en mer, eh bien on découvre bien sûr la mer dans tous ses états. C'est pas la plage, là on va se mettre quelque part, mais on découvre la mer dans tous ses états. Quelquefois des creux de 5 à 10 mètres avec tous les accès extérieurs qui sont fermés. Et là, eh bien, tu braves les interdits parce que tu as envie d'aller voir la mer en furie. C'est impressionnant. Le porte-avions qui est en train de plonger dans l'eau, ressortir, c'est juste impressionnant de voir cette masse de plus de 300 mètres de long, eh bien, plonger comme cela dans les eaux. Et à ce moment-là, ça peut prendre conscience combien tu es tout petit, mais aussi des moments où il y avait une mer d'huile, où là, eh bien, tu montais sur la tourelle et tu regardais au loin, et la seule chose que tu voyais, c'était le sillage que laissait le porte-avions dans les eaux. C'est tout, rien d'autre, pas un brin de vent, une mer d'huile. C'est sublime, c'est juste très très beau. Et la vie chrétienne est tout sauf cette mer d'huile, qui fait que tu navigues tranquillement, le petit moteur qui va bien, ou le vent qui souffle dans les voiles, et là tu diriges au port désiré en chantant quelques cantiques à la gloire de Dieu. Comme dans ce passage, la Bible nous montre que dans la vie chrétienne, nous pouvons les uns et les autres aussi faire face à des épreuves, à des temps d'angoisse, à des temps de difficultés. Il peut y avoir des tempêtes qui se soulèvent dans nos vies chrétiennes, mais l'engagement du Seigneur est là pour chacun de vous, pour chacun de nous, bien-aimés, en ce qu'il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours. Pas quelques jours, tous les jours, et ce jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation des temps. Alléluia. J'aime ce passage parce que, en le reméditant encore ces jours-ci, l'Écriture nous dit que Jésus monte dans la barque et ses disciples le suivirent. Et ses disciples le suivirent. Et en repassant ces textes dans mon esprit, eh bien, je me disais, mais eh bien, quand les disciples sont montés dans la barque derrière Jésus, eh bien, probablement la vision qu'ils avaient à ce moment-là du lac de Tibériade, eh bien, était une vision sur lequel il y avait le mauvais temps. L'Écriture nous dit, eh bien, qu'il s'éleva une si grande tempête sur la mer, une si grande tempête. Ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Même si on sait que parfois, eh bien, la météo peut vite tourner. Mais pour ces pêcheurs expérimentés du lac de Tibériade, qui savaient lire sur les eaux, qui savaient lire dans le vent, qui savaient lire dans les nuages, dans le ciel, les signes d'une météo changeante, probablement, les ingrédients étaient en train de se réunir et étaient là pour montrer qu'ils allaient au devant d'une difficulté et que peut-être c'était juste pas le moment de traverser le lac et qu'il aurait mieux valu attendre, laisser passer une nuit ou deux et laisser cet épisode orageux passer. Mais l'Écriture nous dit que Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. La Bible nous dit, frères et sœurs, que nous sommes appelés à marcher non par la vue, mais par la foi. Alléluia. Il ne t'appartient pas dans ta vie chrétienne, eh bien, à te laisser diriger d'après ce que tu peux ressentir ou voir dans le ciel de ce monde, j'allais dire dans les radars de ce monde sur le plan météorologique en disant voilà, et non, tu es juste appelé à marcher à la suite de Jésus. Alléluia. C'est ce qui se passe dans ce passage, frères et sœurs. Il marche à la suite du Seigneur Jésus et je partage et je reviens sur cette image. Peut-être même à cet instant précis, eh bien, leur cœur commence à être gagné par la crainte, parce qu'ils se disent, mais ok, on y va, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Parce que le ciel est en train de s'assombrir. Le ciel est en train de s'assombrir. Nous disons que nos vies, nos destinées, nos vies sont entre les mains de Dieu, que nos destinées sont entre ses mains, mais nous sommes appelés à le suivre, eh bien, en toute circonstance dans notre vie chrétienne, dans les bons ou dans les mauvais moments. Alléluia, béni soit le Seigneur. La Bible nous dit, eh bien, que à ce moment-là, eh bien, alors qu'ils sont dans la navigation, va survenir une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Je voudrais, frères et sœurs, eh bien, m'arrêter avec vous sur cette tempête. La semaine dernière, voyez-vous, il y a eu, pas la semaine dernière, maintenant il y a 10 jours, le 2 octobre, il y a eu dans notre département une tempête terrible, la tempête Alex, qui a frappé la France et qui a frappé aussi l'arrière-pays des Alpes-Maritimes. Et ça a laissé un paysage de désolation, un paysage de désolation. Avec quelques frères et sœurs de l'Église, nous avons pour habitude, jusqu'à avant la COVID, eh bien de monter une fois par mois là-bas pour pouvoir faire des réunions. La vallée de la Roya, c'est une vallée qui est aujourd'hui complètement sinistrée, défigurée par cet épisode et que nous connaissons bien. Nous avons pour habitude d'aller là-bas. Et finalement, eh bien, il y a là une communauté que nous suivons, quelques chrétiens, et chaque mois, on va là-bas, on prend une journée, on va manger tous ensemble au restaurant, on prend le temps de la communion fraternelle, on a une salle municipale, on va se réunir, on y prêche l'évangile, on suit les âmes qui se trouvent là-bas, tout cela. Il y a un travail qui est fait. Et finalement, eh bien, cette tempête, Alex, est venue frapper cette région, cet arrière-pays, et a laissé un paysage de désolation. Les routes que j'avais l'habitude d'emprunter pour se rendre dans cet arrière-pays, eh bien, pour beaucoup, sont devenus impraticables. D'autres hameaux que nous visitions sont aujourd'hui carrément coupés. Il y a quelques ponts qui permettaient de relier ces hameaux ou ces petits villages. Eh bien, ces trois ponts qui permettaient d'entrer dans la ville sont complètement détruits. Et la ville ou les petits hameaux, les petits villages, se trouvent complètement isolés et coupés du monde. Vous avez vu toutes ces choses-là aux informations. Et voyez-vous, la semaine dernière, ces choses-là vraiment ont interpellé mon cœur. Je partageais avec vous, je partageais avec l'Église quelque chose que je voudrais aussi partager avec vous ce matin, si vous permettez. Et je crois, frères et sœurs, que souvent, nous regardons à ce texte et on va revenir à ce texte comme étant un texte clé pour notre vie chrétienne. Nous avons entendu prêcher là-dessus pour nous encourager dans notre marche chrétienne et pour nous dire que Jésus, eh bien, était avec nous dans notre barque, la barque de notre existence, et ce, quelles que soient les circonstances, et qu'il est celui qui est capable de nous conduire au bon port. Et on a ce message, on a eu raison de le proclamer. Et ce message nous a fait du bien. Amen. Mais je crois, eh bien, qu'il y a là une portée plus grande. Pour ne pas dire peut-être même prophétique au travers de ce passage qui concerne l'Église dans tous les âges, l'Église corps de Christ, que le Seigneur a su garder envers et malgré tout, et qu'il veut encore garder aujourd'hui. Alléluia, qu'il veut encore garder aujourd'hui. Voyez-vous, frères et sœurs, ce texte-là ne nous invite pas, et que Dieu nous en garde, que Dieu nous aide, à faire encore une fois du nombrilisme, Seigneur ma petite vie, Seigneur bénis-moi, Seigneur ceci, Seigneur cela. C'est notre réflexe naturel. Moi le premier, ne condamne personne en disant cela. Moi le premier, c'est notre réflexe naturel. Mais il nous invite aussi à considérer les choses de Dieu ce matin sous un autre angle, sous un autre angle. Peut-être le sien, par la grâce de Dieu, le sien. Ce texte-là, cette barque nous parle de l'Église, frères et sœurs. L'Église qui a été malmenée pendant tous les âges. Je ne parle pas de l'Église assemblée de Dieu de Martigues. Je parle de l'Église, corps de Christ, invisible et universelle, qui est composée de ceux et de celles qui se revendiquent du beau nom du Seigneur Jésus et qui marchent dans les voies de Dieu. Alléluia. Et cette Église, corps de Christ, quand on étudie l'histoire de l'Église, a été dans l'océan de ce monde plus d'une fois malmenée. Plus d'une fois malmenée. Dès la fin du premier siècle de notre ère, eh bien, l'empereur Néron et les hommes de l'époque ont voulu persécuter l'Église première, l'Église naissante. Très rapidement, alors qu'elle avait la faveur du peuple, l'Écriture nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, à Jérusalem, que très rapidement elle va être persécutée, elle va être disséminée ça et là, et que elle va connaître à ce moment-là des temps de troubles, des tempêtes terribles. Mais le Seigneur, qui marche, l'Écriture nous dit, dans le livre de l'Apocalypse, au milieu des sept chandeliers d'or, est le même qui marche au milieu de son Église, au travers de tous les âges, alléluia, et qui s'est engagé pour elle, et qui a dit, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Alors oui, frères et sœurs, il y a eu des moments heureux dans l'histoire de l'Église. Oui, frères et sœurs, il y a eu des moments où par la grâce de Dieu, il y a eu des temps de grâce, des temps de miracles, des temps d'effusion du Saint-Esprit, des temps où final de réveil spirituel, des temps où les églises ont été multipliées par dizaines, centaines, milliers. Mais il y a eu aussi des temps d'angoisse terrible, où on allait jusque dans les maisons pour chercher ceux qui se revendiquaient du nom de Jésus. J'ai été dans l'exercice de ma formation pastorale, à un moment donné aussi, en Ardèche. J'ai vécu à Privas. Pas très loin, vous avez le boucher de Pranles. Pas très loin. Dans le boucher de Pranles, vous avez une maison. La maison où a vécu Pierre et Marie Durand. Ça vous dit quelque chose? Eh oui. Cette maison est devenue un lieu de visite, un lieu de mémoire, retraçant l'histoire du protestantisme en Ardèche, où comment ces hommes et cette petite communauté chrétienne, persécutée par les dragons du roi sous Louis XIII, mettaient tout en œuvre pour essayer de conserver la foi, cet héritage, garder la foi, cet héritage qu'ils avaient reçu de la part du Seigneur au travers des Écritures. Et on connaît l'histoire, finalement, qui a fait que Pierre était ce serviteur de Dieu qui, inlassable, prêchait l'Évangile. Et à un moment donné, on a pris sa sœur, on l'a arrêtée, on l'a mis dans la tour de Constance, où là, elle va y vivre pendant, y séjourner pendant plus d'une trentaine d'années. Où là, sur la margelle d'un puits, on connaît son histoire, elle va écrire « Résister, résister ». L'Église, frères et sœurs, au travers des âges, a été persécutée. L'Église en France, frères et sœurs, a été persécutée. Nos aïeux, nos pères et nos mères, qui ne s'appelaient pas pentecôtistes assemblés de Dieu, ont été persécutés. Certains ont fui. On fuit pour la Hollande, certains ont fui pour la Suisse, certains ont fui, moi j'étais en Haute-Savoie avant de venir ici, et quand vous visitez Genève, il y a à l'intérieur de la ville des maisons qui sont bâties sur trois niveaux, et on a rajouté un quatrième niveau pour pouvoir accueillir les Huguenots, les chrétiens en France qui étaient persécutés et qui venaient dans la Suisse et dans la ville de Genève intramuros pour pouvoir trouver le refuge. Comme la barque, l'Église de Jésus-Christ avait été malmenée et dans le dessein diabolique, l'adversaire voulait juste la briser, en finir avec et l'engloutir à tout jamais. Mais voici celui qui a parlé, sa parole demeurera immuable, inchangée et elle s'accomplira. Voici les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Le diable pourra se déchaîner contre l'Église, l'Église subsistera. Non par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu. Alléluia. Par la volonté de Dieu. Je voudrais, frères et sœurs, nous alerter dans les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Vous avez un beau ciel bleu. Quand je suis venu, la route, elle était belle. En sortant de Fréjus, tout ça, le ciel était dégagé. Je regardais dans le rétro, je voyais le ciel, des arcs d'orage qui étaient juste derrière moi sur la route. Juste derrière moi. Ce matin, il a tellement plu dans la nuit que je me suis dit, j'espère que je n'ai pas rencontré difficulté sur la route pour venir. Parce que des fois, là-bas, on a quelques surprises. Et voyez-vous ce que je veux vous dire, frères et sœurs. C'est qu'en qualité d'église, nous avons besoin d'être réveillés, d'avoir un esprit réveillé. Éveillé, alerte, afin de discerner les temps dans lesquels nous vivons, Si par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous jouissons de la liberté de culte, c'est un privilège qui a été payé par un prix fort. Mais aujourd'hui, plus que jamais, cette liberté en France est en danger. Plus que jamais. Depuis des temps maintenant qui s'accélèrent, les choses tendent à changer. Les choses tendent à changer. Les lois les plus iniques sont votées à une allure déconcertante aujourd'hui. Nous sommes déstabilisés, nous, communauté chrétienne, dans nos valeurs, dans ce qui fait le socle même de notre foi, dans nos convictions. Ce qui est appelé bien de tout temps est appelé mal. Et ce qui était appelé mal est aujourd'hui appelé bien et fait partie de l'échelle de valeurs communes. Les projets de loi sont votés les unes derrière les autres. Mariage pour tous, GPA, PMA, euthanasie, toutes ces choses-là qui sont en marche. Aujourd'hui, au travers de cette période que l'on est en train de vivre, on entend parler de projets de loi, de séparatisme, sous prétexte qu'un groupuscule en France de barbus font un petit peu la panique. Et donc on dit, voilà, on veut viser cette communauté, les intégristes musulmans, et on veut créer une loi dans l'État dans lequel il y a là une forme de séparatisme. On va vérifier littéralement, presque tout à l'heure, ce dont en quoi tu crois, qu'est-ce qui fait tes convictions. Où on va aujourd'hui? Je vous le dis. Où on va? Où on va? Je ne dresse pas un tableau noir. Je dis, frères et sœurs, que nous avons besoin d'être alertes. On n'est pas appelé à venir dimanche, semaine après semaine, à l'église, dire, chanter trois cantiques, dire « Seigneur, alléluia, tu me fais du bien, j'attends le ciel. » On est appelé aussi à se souvenir que nous sommes dans un enjeu spirituel. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne préfaudront point contre elle. Mais sur chaque nation, sur chaque royaume, sur chaque état, chaque gouvernement, il y a là aussi ces réalités spirituelles contre lesquelles l'Église de tout temps a eu besoin de combattre. Et nous n'en sommes pas exemple, nous, chrétiens du 21e siècle. C'est cette réalité dont Éphésiens 6, 12 nous parle. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les princes de la puissance de l'air qui agissent aujourd'hui. C'est une réalité. C'est une réalité. Est-ce que le diable veut juste, c'est nous jouer de jolis coups de violon en disant « Reste tranquille, on s'occupe de tout. » Tu vas te réveiller demain dans une société 2.0 où tu vas te demander pourquoi finalement on en est là. La réalité, c'est que ces choses, elles prennent place. Elles prennent place. Et nous devons, nous, frères et sœurs, être trouvés veillants et priants. Alléluia. Veillants et priants. Avoir, nourrir, Aujourd'hui, le discernement des temps dans lesquels nous vivons. L'Écriture nous parle, frères et sœurs, des fils d'Issacar qui avaient la connaissance des temps dans lesquels ils vivaient, ils se trouvaient. On a parfois entendu parler des fils d'Issacar, mais combien c'est vrai, Seigneur ? Donne-nous la connaissance des temps dans lesquels nous vivons. Amen. Église des derniers temps. Peut-être le Seigneur ne voudrait-il pas aussi éveiller notre esprit comme il a éveillé l'esprit de Jean à Patmos. Alléluia. Où il lui a dit, voilà ce qui vient. Voilà ce qui vient. Il a béni Dieu. Il savait que la conclusion était glorieuse. Mais il connaissait les temps dans lesquels il vivait. On ne doit pas verser dans le catastrophisme. On ne doit pas verser dans le conspirationnisme. On doit dénoncer ces choses-là. Mais on ne doit pas aussi être loin de la réalité eschatologique des prophéties, donc l'étude des derniers temps. On doit aussi rechercher ces choses-là et dire, Seigneur, eh bien aussi c'est une réalité pour l'Église aujourd'hui. Amen. Frères et sœurs, je vous dis, en peu de temps, notre société, notre monde a été secoué. Le confinement, Covid, on a paralysé le monde. On a paralysé le monde. Un mal a paralysé le monde. Ça ne s'est jamais passé. Consultez vos anciens. Pendant la Première, la Seconde Guerre mondiale, les églises évangéliques sont restées ouvertes. Les lieux de culte sont restés ouverts. C'est une première dans l'histoire. C'est une première. Les femmes de pasteurs ont assuré le service. C'était comme cela. C'est une première. Et on vit des temps qui sont très particuliers. Très particuliers. Et dans ces temps si particuliers, eh bien, nous devons juste ne pas sombrer dans l'inquiétude, dans le catastrophisme, se souvenir que celui qui a gardé les disciples garde aussi la barque de l'Église, il la conduira à bon port, amen, mais en même temps, bénir Dieu, alléluia, pour sa fidélité et rechercher à être des instruments de bénédiction dans notre génération. Alléluia, je voudrais terminer parce que l'heure est arrivée. Je voudrais terminer là-dessus. Un témoignage. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y avait beaucoup de choses à dire. J'aurais voulu insister sur le second volet avec la tempête à titre individuel. Mais c'est une pensée que j'ai reçue et que simplement je voulais partager aussi, qui a trouvé un écho dans mon église la semaine dernière. Je sens que la portée est plus importante aussi, qu'il y a quelque chose pour nous aussi qui est là. Je l'ai partagé simplement. Je voudrais terminer juste sur ce petit témoignage. Vendredi 2 octobre, quand notre département était en alerte rouge, que le préfet avait dit pas d'école, pas de transport, rien du tout, tout ça, nous, sur le littoral, j'habite sur le littoral, on avait de fortes pluies, mais ça allait en fait. On se disait, mais à quoi ça sert qu'il ait tout annulé? Tout annulé. Ça sert à quoi qu'ils ont paralysé tout le département pour si peu, finalement? Pour si peu. Et presque, on en riait un petit peu en échangeant avec les uns et les autres un peu au téléphone et tout cela. Et finalement, on était loin d'imaginer que dans l'arrière-pays, il se jouait ces dégâts terribles. Cette situation et ces drames terribles. Voyez-vous ? Et ces hommes de science avaient prédit et avaient vu dans leur radar de précipitation que la dépression arrivait. Comprenez ? Et nous, je reviens, frères et sœurs, Église de Jésus des derniers temps, gardons-nous d'être influencés par la mentalité des gens qui étaient les contemporains de Lot, qui se riaient de ce qui allait venir. Mais puissions-nous rechercher dans la présence de Dieu quelle heure il est au radar de Dieu. Alléluia, au radar de Dieu, afin de connaître les temps, de laisser l'Esprit de Dieu garder son peuple et de nous permettre d'arriver fort. Alléluia par la grâce de Dieu.